Philippe, 5 novembre 1982, Rimont.
La semaine prochaine, hein, c'est la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, mardi, à quelle heure? C'est à 4 heures. Il y aura donc une activité particulière, puisqu'il y aura un séminaire. Hein. Vous trouverez, c'est un séminaire sur l'éthique de Platon, vous savez le sujet de cette année-ci, c'est spécialement sur l'éthique et les rapports entre la liberté et la proie agressive. Alors, vous trouverez le texte, c'est bon de le lire avant. Il est à la salle de lecture. À la salle de lecture, vous aurez le texte. N'est-ce pas ? Pour pouvoir le lire avant et pour pouvoir vous poser des questions en lisant. Si vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous posez pas de questions. Mais c'est quand même bon puisque le séminaire est fait pour être normalement un certain dialogue entre un étudiant qui a étudié un sujet, les autres qui essaient d'entrer dedans. Alors, c'est quand même important. Alors, parce que c'est très important de faire à la fois métaphysique et éthique en même temps. L'éthique, c'est au cœur de l'anthropologie, et la métaphysique, c'est le dépassement de l'anthropologie. Et donc, il y a toujours les deux qu'on doit voir en parallèle, constamment. Je crois qu'on ne peut pas faire une véritable métaphysique sans voir l'éthique. Et on ne peut pas faire une véritable éthique sans métaphysique. C'est là où on voit, et c'est ça qui serait intéressant à bien comprendre, comment, au fond, sans métaphysique, l'éthique chez Kant alors, se rabat sur le point de vue de l'impératif catégorique, parce qu'en définitive, c'est ça qui est au cœur, hein, c'est de comprendre l'impératif catégorique de Kant, hein, tout ce séminaire doit aboutir à ça, comprendre ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de faux. Et comment alors l'impératif catégorique, quand il n'est plus appuyé sur une métaphysique, l'imperium. Hein. L'imperium, tous les matins, vous savez ce que c'est quand vous entendez le lever à 6 heures du matin, la cloche. Alors, lève-toi. Il y a une cloche, il y a un réveil qui vous dit lève-toi. Vous dites, ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Alors, l'imperium, ça consiste à dire, bon, je me lève. Alors, voyez, pour Kant, la voix de Dieu. Tandis que si vous êtes un peu intelligent, vous dites, lève-toi, oui, c'est le règlement, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. C'est votre foi qui vous fait dire, c'est la volonté de Dieu. Vous essayez d'unir la volonté humaine et la volonté divine. C'est un problème extrêmement intéressant, c'est au cœur de tout Épictète, de tout le stoïcisme dans ce qu'il a de plus fort, et de Kant. Donc c'est un problème très important, ce que nous étudions au point de vue du séminaire. C'est, je dirais, le nœud de l'éthique. Comme il y a le nœud métaphysique de l'acte, il y a le nœud de l'éthique. Et on devra essayer de comprendre tout le temps les deux aspects. Et c'est ça qui sera intéressant. Donc, je crois que ça peut intéresser tout le monde, parce que c'est de l'ordre éthique. Tout le monde suit là, non, pas la première année. Bon, ceux qui ne s'intéressent pas demandent la dispense. Que la première loi, c'est la loi de la dispense. Hein. Dans les constitutions dominicaines, le premier règlement dominicain, c'est la dispense. C'est du reste très bien, comme ça, on voit très bien. On peut serrer comme ça les écrous, il y a la dispense. Vous avez une question ici, vous avez montré la distinction à opérer entre philosophie spéculative et philosophie pratique. Je vous ai montré comment cette distinction est typiquement aristotélicienne. Quand je dis typiquement aristotélicienne, ça veut dire que Aristote est le premier dans notre philosophie occidentale à avoir opéré cette distinction. Elle est à l'état tout à fait de l'état tout à fait confus dans Platon. Parce que Platon a une pensée dialectique. Et dans une pensée dialectique, on ne peut pas faire cette distinction. Alors ça, ce serait très intéressant de bien voir que cette distinction repose sur le point de vue de la finalité. Je peux distinguer la philosophie spéculative de la philosophie pratique à cause de la métaphysique de l'acte. C'est-à-dire à cause de la finalité. La finalité dans l'ordre de l'esprit. La finalité dans l'ordre de l'esprit nous fait comprendre comment l'esprit est fait pour la recherche de la vérité à l'état pur. Je recherche la vérité. Et comment l'esprit est fait pour diriger mon action et réaliser une œuvre. Réaliser un bien commun. Donc ça repose sur la finalité. Dès que la finalité disparaît, la distinction entre philosophie spéculative et pratique disparaît. Alors, si on a un sens très aigu de la finalité, on peut comprendre cette distinction. Et on la comprend immédiatement, parce que nous en vivons tout le temps, ça. Nous vivons tout le temps de ces deux aspects. Vous savez bien, je vous donne un titre d'exemple, parce que c'est intéressant à voir. Dans le marxisme, il ne peut pas y avoir cette distinction. Le Fèvre, qui était marxiste et qui l'est toujours, Le Fèvre, 10 ans après la guerre, a écrit un livre pour essayer de comprendre le développement du marxisme en France après la guerre. Donc il faisait une réflexion critique spéculative. Il a été rayé du parti. Parce qu'en faisant ça, il n'était plus marxiste. Très significatif. Vous ne pouvez pas avoir une réflexion critique dans une démarche qui est proprement dialectique. La démarche dialectique, elle est la démarche dialectique. C'est pour ça qu'ils ont toujours raison. Quand on a dit, ah, il y a 10 ans, vous avez dit autre chose. Maintenant, vous dites ça. Il y a 2 ans, vous avez dit autre chose. Maintenant, vous dites ça. Vous êtes en contradiction avec nous. Pas du tout. Il n'y a pas de contradiction. Dans une démarche dialectique, il n'y a pas de contradiction. Puisqu'il n'y a pas de réflexion critique. Il n'y a pas de réflexion spéculative. Or, le principe de non-contradiction n'existe qu'au niveau de la connaissance spéculative. Ça, nous le verrons. Mais c'est intéressant tout de suite de comprendre qu'en faisant la distinction entre connaissance, philosophie spéculative et philosophie pratique, je ne peux pas accepter une pensée dialectique. La pensée dialectique nie la distinction de philosophie spéculative et philosophie pratique. Pour reconnaître la distinction entre philosophie spéculative et philosophie pratique, il faut l'analogie. La connaissance se diversifie elle-même en connaissance spéculative et connaissance pratique. Et elle se diversifie elle-même, c'est ça l'analogie. Hein. C'est une diversité, c'est une diversification qui se fait de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est la connaissance qui elle-même se diversifie en connaissance spéculative et en connaissance pratique. Elle se diversifie en connaissance spéculative et connaissance pratique parce que l'intelligence est faite pour connaître la vérité. Elle est faite pour appliquer cette vérité. Alors vous avez donc deux grands aspects de la connaissance, deux grandes orientations. Alors l'autre question est celle-ci, est-il possible de faire une philosophie pratique sans faire une philosophie spéculative? J'espère que vous comprenez maintenant que si je n'ai pas cette distinction précise dans mon intelligence, je ne peux pas faire de philosophie pratique. La philosophie implique une réflexion, ce n'est pas ma vie. Quand vous vivez, vous ne faites pas de la philosophie. Vous savez le vieux dicton, hein? Primum vivere. Et chaque fois que vous vous mettez à table, primum vivere. Et puis alors, c'est qu'on... En second lieu, hein, vous philosophez. En second lieu, parce que quand vous avez trop faim, c'est très difficile de philosopher. C'est pour ça que Aristote dit la connaissance spéculative est née en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Si on est toujours sur un chantier, c'est très difficile de philosopher. C'est très difficile, parce que vous êtes sur le chantier. C'est très difficile quand vous êtes en train de vous défendre, en état de guerre, de faire de la philosophie. Il faut avoir un tout petit peu de recul. C'est le propre de la philosophie. La philosophie implique un certain recul. Même la philosophie pratique. La philosophie pratique implique un peu de recul. Et donc, ça implique une réflexion. C'est l'intelligence qui fait la philosophie. Alors, il faut donc nécessairement... Pour distinguer une philosophie, du moins pour réaliser une philosophie pratique, comprendre que cette philosophie pratique n'est pas dialectique. Elle est dans un principe de précision, de distinction à l'égard de la philosophie spéculative. Donc je ne peux pas vraiment faire une philosophie pratique s'il n'y a pas une philosophie spéculative. Je ne peux pas vraiment faire une éthique si je ne suis pas un peu métaphysicien. Évidemment, c'est très grave ce que je dis là, comme conséquence. C'est très grave, mais j'en suis persuadé. Donc, si vous avez des questions, des objections là-dessus, écrivez vos objections. Parce que c'est très important d'écrire toutes ces objections. Parce que dès qu'on les écrit, on s'aperçoit que ce n'est pas si commode que ça. C'est très difficile. Alors il faut les écrire. Mais il faut écrire toutes les objections qu'on a. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des nœuds affectifs. Les nœuds affectifs ne sont pas philosophiques. Mais quand on a des questions, alors on peut en avoir. Si on est formé par Kant, c'est normal qu'on ait des objections. Parce que Kant a supprimé cette distinction. Il ne l'a pas supprimée, non. Il ne l'a pas supprimée, parce que chez Kant, elle existe, la distinction entre le spéculatif et le pratique. Elle existe. Mais elle est tout à fait différente. Alors ça serait très intéressant de voir comment, chez Kant, la distinction entre le point de vue spéculatif et pratique est devenue quelque chose de tout à fait différent. C'est la notion du transcendantal. La connaissance transcendantale, les formes transcendantales, la connaissance transcendantale, a priori, deviennent spéculatives. Parce qu'il ne rejoint pas le réel. Alors le spéculatif ne rejoint plus le réel. Tandis que pour Aristote, le spéculatif rejoint le réel. C'est à l'intérieur d'une philosophie réaliste qu'on fait la distinction entre le spéculatif et le pratique. Il ne faut pas dire le spéculatif, c'est en dehors du réel. Pas du tout, c'est le réel. En profondeur, et c'est plus réel que le pratique, puisque c'est l'être, c'est la réalité qui est. Tandis que chez Kant, la distinction est devenue le point de vue transcendantal, les formes a priori transcendantales, les formes a priori qui sont donc séparées de l'expérience, qui n'ont plus le contact avec le réel. Alors il y a une coupure qui s'est faite différemment, vous voyez. C'est toujours intéressant quand on est en face d'une distinction fondamentale, comme la distinction entre le spéculatif et le pratique, de voir ce que cette distinction est devenue dans la philosophie. Ça c'est une clé au point de vue de l'histoire de la philosophie, parce que c'est un aspect critique. C'est de comprendre qu'une distinction, au moment où elle est faite, il faut toujours la voir au moment où elle est faite, et ensuite comment les gens l'ont répétée. Ordinairement, quand on la répète, on ne la repense plus. On tombe dans une ornière. Et alors, cette distinction prend des modalités tout à fait différentes. Et quelquefois, au bout d'un certain temps, ça devient diamétralement opposé à ce qui était au point de départ. Alors, nous allons continuer notre effort d'entrer dans la philosophie première. Je vous ai montré, parce qu'il faut d'abord faire ça, quand on fait de la philosophie première, il faut quand même saluer le premier qui a fait de la philosophie première. Et je vous ai dit, c'est Aristote qui fut le premier à essayer de donner cette structure, cette organisation interne. Aristote est le premier qui a bien découpé le poulet. Je vous ai dit, trouver l'organisation interne de la pensée philosophique et trouver cette nervure première. Si je réfléchis sur la philosophie, je vois que tout de suite, il y a une grande distinction entre une philosophie spéculative et une philosophie pratique. Et le philosophe doit garder les deux. Il doit garder les deux. Autrement, il n'est plus philosophe. Il doit garder cet amour de la vérité et il doit en même temps comprendre que cet amour de la vérité, c'est pour l'homme. La philosophie est pour l'homme. Et c'est pour ça que la philosophie pratique me permet de comprendre comment tous mes efforts spéculatifs me permettent d'aller plus loin dans l'ordre pratique. Très important de bien voir ça. C'est pour ça que la philosophie pratique est au point de départ et elle est au terme. Et alors le petit signe de cela, c'est très net, c'est que le traité de la contemplation chez Aristote n'est pas en philosophie spéculative, mais il est dans l'éthique. C'est au chapitre 10 de l'éthique à Nicomaque, qu'Aristote traite de la contemplation. Donc, il traite de la contemplation en philosophie pratique. Vous voyez ce que c'est que la philosophie pratique? Ça va jusqu'à la contemplation. Et donc, ça assume tout point de vue spéculatif. C'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il y a deux moments dans le pratique. Il y a un moment pratique moral, éthique, politique, et un point de vue pratique contemplatif. Alors ça fait éclater nos petites distinctions entre pratique et spéculatif. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que si je ne vois pas ça, je ne comprends pas bien cette distinction entre philosophie spéculative et philosophie pratique. Je reprends pour que vous voyez très bien ça. Ça, il faut y réfléchir beaucoup. Hein. Ce sont ces distinctions majeures. Ce sont des petites clés, si vous voulez, des passe-partout. Alors, il faut comprendre ce que c'est. Évidemment, ceux qui commencent à faire de la philosophie, ils ont de la peine à comprendre ça. Je comprends. Bien que du côté de la finalité, on le comprend tout de suite. Hein. La philosophie spéculative, recherche de la vérité. La philosophie pratique, l'action. Le bien commun. Tout le monde peut comprendre ça. Et alors, comprenons que la philosophie est au service de l'homme. Elle est pour l'homme. Si je fais de la philosophie, c'est pour mieux comprendre l'homme. J'ai déjà dit à certains d'entre vous ce petit dialogue que j'avais avec un prêtre ouvrier à Limoges, ça m'avait beaucoup intéressé du reste, parce que c'était intéressant de voir cela. Ce bon prêtre ouvrier me demande tout de suite « Qu'est-ce que vous faites ?» dans le civil. Alors je réponds « Je suis professeur de philosophie à Fribourg. » « Ah mais quelle philosophie ?» Alors je le regarde, je dis « Vous croyez qu'il y a deux philosophies ?» Il n'y a qu'une seule philosophie. Il y a la recherche de ce que c'est que l'homme. On fait de la philosophie pour l'homme, c'est pas autre chose, ça ne vaut pas la peine. Pas la peine de perdre son temps. Je développe ça. Puis je lui dis, et vous, pourquoi êtes-vous prêtre ouvrier? Ah, je dis, c'est pour connaître l'ouvrier. Je dis, oui, c'est ce que je croyais bien. Vous étiez prêtre ouvrier pour connaître l'ouvrier. Eh bien, moi, je suis philosophe pour connaître l'homme. Alors, il m'a regardé. Il m'a dit, vous avez peut-être raison. Parce que si on ne regarde que l'ouvrier, est-ce qu'on connaît bien l'homme? Il faut d'abord connaître l'homme pour connaître l'ouvrier. Et c'est vrai, on ne convertit pas l'ouvrier, on convertit l'homme. On ne convertit pas le patron, on convertit l'homme. On ne convertit pas le philosophe, on convertit l'homme. On ne convertit pas le fonctionnaire, surtout le haut fonctionnaire. Hein. On ne convertit pas, on convertit l'homme. C'est l'homme qu'on doit chercher, vous voyez, c'est l'homme. Eh bien, le philosophe cherche à comprendre l'homme. C'est ça l'intérêt, c'est de chercher à connaître ce que c'est que l'homme. Alors, je connais l'homme de deux manières. Connaissance spéculative, je cherche la vérité. Connaissance pratique, l'action et l'œuvre, c'est bien évident. Mais comprenez bien, toute la philosophie spéculative, elle est pour l'homme. Alors j'ai un troisième moment que je mets ici. Je mets presque la synthèse du pratique et du spéculatif, mais ce n'est pas une synthèse. Le dernier moment, tout se termine du côté de la philosophie pratique, la contemplation, la théoria, la contemplation. La contemplation, c'est quoi? C'est toute ma philosophie pratique, toute ma philosophie spéculative qui est pour l'homme. L'homme est fait pour contempler. Et c'est ce que j'ai dit à ce prêtre ouvrier. Il est bien obligé d'accepter. L'homme est fait pour contempler. Donc il est obligé de dépasser son travail. Le travail n'est pas la finalité de l'homme. C'est très important de voir ce que c'est que l'ouvrier. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce qu'on doit creuser dans ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est sa capacité de contemplation. Oui, ce n'est pas sa capacité de rechercher la vérité. Non. C'est pas ça qui est le plus profond. La finalité de l'homme, c'est pas la philosophie spéculative. Quand vous dites que la finalité de l'homme, c'est la philosophie spéculative, vous retombez dans une idéologie. Il y a des idéologies spéculatives, ça existe. Et il y a des idéologies pratiques. C'est parce qu'on oublie l'homme, on met l'homme entre parenthèses. Alors on finalise la philosophie spéculative sur elle-même. Ça s'est fait dans la scolastique, ça. Hein. La scolastique, de fait, a fait ça. elle a finalisé la philosophie spéculative ou la théologie spéculative pour elle-même. Alors à ce moment-là, c'est la vérité qui domine. Non, c'est l'homme. Et l'homme dans sa contemplation, c'est ça qui finalise tout. Ou l'homme dans son amitié, c'est les deux grandes finalités. Et la philosophie spéculative est faite pour permettre à l'homme de mieux contempler et de mieux aimer. Oui, c'est pour ça que je le mets là, mais mettez-le là. Et en comprenant bien que c'est dans la ligne de la philosophie pratique. Alors il y a deux dimensions pratiques, vous voyez. Il y a la dimension. Exactement. Il y a quatre dimensions pratiques au point de vue philosophique. Une, la morale. Deux, la philosophie artistique. 3, politique. 4, la contemplation. C'est pour ça, vous voyez, comme c'est difficile, hein, quand je parle de philosophie pratique, quand je parle du domaine pratique, eh bien, il y a 4 dimensions. Vous êtes dans l'ordre pratique quand vous faites le maçon. Vous faites une œuvre. Quand vous faites la cuisine, vous faites le maçon, la cuisine. Hein? Bon, alors ça, c'est pratique. Vous êtes dans l'ordre pratique quand... De fait, vous obéissez. Quand vous faites un acte prudentiel, quand vous arrivez à vous dominer un tout petit peu vous-même, vous êtes un acte pratique. Vous faites un acte pratique quand vous opérez pour le bien commun. Pour le bien commun. On fait une œuvre ensemble. La liturgie, c'est le bien commun. Et puis, vous faites une œuvre pratique, éminemment pratique, quand vous contemplez. Vous voyez, 4 niveaux du pratique. Eh bien, tout le spéculatif, il est pour le pratique. Mais il est pour le pratique 4. Il n'est pas pour le pratique 1 et 2 et 3. Il l'est, c'est sûr, il l'est aussi, mais il le dépasse. Oui. Alors ça, c'est très important à comprendre, hein, que le domaine pratique a 4 niveaux. 4 niveaux. Je dis au point de vue philosophique, parce qu'au point de vue chrétien, on verrait qu'il y en a un cinquième. C'est le point de vue de la grâce. Le point de vue de la grâce qui serait le cinquième. Alors vous aviez la grâce, cinquième niveau pratique, qui unifie, qui peut unifier tout cela. Bon, mais ici je suis au point de vue philosophique. Hein. Alors vous voyez que cette distinction du spéculatif et du pratique est une distinction analogique. Donc je suis en face d'une diversité dans l'unité. C'est la connaissance philosophique qui se diversifie elle-même dans une recherche de la vérité, dans une recherche de l'opération humaine. Et l'opération humaine contemplative. Simplement, ça, c'est pour répondre à la question, vous voyez. Alors, je continue maintenant ce que je vous avais vu la dernière fois. J'avais essayé donc, de la dernière fois, de vous montrer comment Aristote a réfléchi à partir de cette distinction du spéculatif et du pratique, il a réfléchi sur l'organisation interne de la philosophie. Et grâce à sa distinction, qui est une autre distinction, hein, vous allez comprendre, grâce à cette autre distinction, je vous mettrai toujours en lumière les distinctions, les divisions nécessaires qu'il faut comprendre. Grâce à cette autre distinction, l'ordre génétique et l'ordre de perfection, dans notre connaissance, il y a toujours deux ordres, l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Alors on pourrait se demander, hein, laquelle de ces deux distinctions est plus fondamentale? Ça, c'est intéressant de se poser la question. Vous comprenez qu'en fonction de cette distinction, l'ordre génétique et l'ordre de perfection, je peux me poser la question, est-ce que la philosophie pratique est-elle première? Elle est première dans l'ordre génétique. La philosophie spéculative est seconde dans l'ordre génétique. Mais dans l'ordre de perfection, au niveau de la connaissance, la philosophie spéculative est première. Alors, l'une et l'autre ont une priorité, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc, il ne s'agit pas de classer en disant, je vais d'abord faire de la philosophie pratique, puisque c'est premier génétiquement, oui, c'est premier génétiquement. Mais selon l'ordre de perfection, la connaissance, la philosophie spéculative est première. Donc, je ne peux pas faire une philosophie pratique parfaite sans la philosophie spéculative. puisqu'elle est première dans l'ordre de perfection. Et c'est ce qui explique comment ce qui d'abord est premier dans l'ordre génétique est de l'ordre de la disposition. Quand la forme substantielle arrive, la philosophie spéculative, ce qui est de l'ordre de la disposition devient propriété. Alors j'ai la théoria, j'ai la contemplation. Vous voyez ? Cette espèce de lien entre les deux, ces deux distinctions sont capitales. Hein. C'est les deux grandes distinctions originales d'Aristote. Aristote a découvert que le propre de l'esprit qui implique une connaissance sensible, le propre d'une connaissance spéculative, du moins une connaissance intellectuelle, et une connaissance sensible, vont impliquer une distinction entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Et cette distinction entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection entraîne cette autre distinction du spéculatif et du pratique. Oui. Et ça, c'est, je crois, toute la question où Aristote traite dans le De Anima de ce que c'est que l'intelligence, la connaissance. Notre connaissance est d'abord une connaissance sensible. Et puis progressivement, nous arrivons à être intelligents. Ça dépend pour qui, hein, à quel âge. Certains, en prenant le biberon, ils ont eu, comme dit Maritain, des intuitions métaphysiques. N'est-ce pas ? En prenant le biberon, ils ont eu des intuitions métaphysiques en prenant le biberon. Je ne sais pas si vous l'avez eu, n'est-ce pas ? Mais c'est possible. Vous savez, ce gosse qui a 4 ans, c'est une mère qui m'a raconté ça, alors, c'est pas tout à fait le biberon, il avait 4 ans, mais il a 4 ans, sa mère lui sert la soupe, et puis il dit, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? À 4 ans, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors sa mère lui dit, mange ta soupe quand elle est encore chaude. La distinction entre l'ordre du temps génétique et l'ordre de perfection. Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Prends ta soupe quand elle est encore chaude. Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors sa mère s'énerve, parce qu'elle s'en va. Elle l'a laissé dans sa recherche, elle aurait été incapable de répondre qu'est-ce que c'était que l'éternité. Puis alors, au bout de 5 minutes, elle revient, le gosse prend sa soupe. Alors, elle dit, alors tu as trouvé ? Alors, le gosse, simplement, prend le rond, l'éternité, c'est ça. C'est beau. L'intuition du gosse de voir que l'éternité, c'est le cercle. Jusqu'où a-t-il eu l'intuition métaphysique ? Jusqu'où c'est resté dans un symbolisme ? Ça, je n'en sais rien. On verra dans l'éternité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu comme une espèce d'intuition de quelque chose qui dépasse le temps. Le temps est successif, l'éternité, c'est uniforme. Il y a quelque chose d'un dans l'éternité. C'est très vrai qu'on peut avoir très vite des intuitions métaphysiques, très vite. L'analyse métaphysique, ça met du temps. Il faut 45 ans. Avant d'arriver à l'analyse métaphysique, vous voyez, vous avez encore de l'espérance devant vous. Pour vous dire que ce n'est pas si commode que ça ce que nous faisons. Hein. Ce n'est pas commode du tout. Nous reprenons quelqu'un qui a pensé longuement et qui a découvert ces deux distinctions, l'ordre génétique, l'ordre de perfection, philosophie spéculative, philosophie pratique. Et à partir de là, il nous donne l'organisation de la philosophie. Je vous ai dit hier, immédiatement après Aristote, on voit les stoïciens qui suppriment cette distinction. Les stoïciens suppriment cette distinction et suppriment celle-là. Les deux. C'est très intéressant de voir ça. Cette distinction a été perdue. Elle a été reprise en saint Thomas. C'est très vrai. D'Aristote à saint Thomas, il y a un grand trou. Entre deux, il y a Boès, supposons être Boès, c'est sûr, mais il y a un grand trou. Saint Thomas, immédiatement après Saint Thomas, on retombe à Avicenne, donc au néoplatonisme. Ça, c'est de l'histoire, mais c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir ça. Les sommets, vous savez, les sommets, hein, c'est difficile de les rattraper. C'est très difficile. C'est très difficile parce que, justement, ce sont des sommets. Alors, on doit essayer de les comprendre, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui éclaire tout le reste. C'est de voir le sommet d'une pensée philosophique. C'est ça qui est intéressant. C'est le... En Suisse, on appelle ça le ski de printemps, n'est-ce pas, le ski, faire le sommet, en fait, tous les sommets, hein, au moment où ça commence, la neige commence à fondre, alors il y a les sommets qui demeurent. Et c'est vrai qu'il y a les sommets qui demeurent. Après saint Thomas, immédiatement, on a perdu le sens de ce que c'était que cette connaissance spéculative. Mais saint Thomas reprend, ça il faut bien comprendre, saint Thomas reprend la distinction d'Aristote, connaissance philosophie spéculative, philosophie pratique, ordre génétique, ordre de perfection. Alors, je ne dis pas que c'est l'invention de saint Thomas, puisque c'est d'Aristote. Saint Thomas l'a repensé en théologien, et pour sa théologie. Et alors, après saint Thomas, on revoit bien cette distinction. On la retrouve, cette distinction. Vous la retrouveriez chez Kant, d'une certaine manière, mais chez Descartes, vous la retrouvez, mais totalement transformée. Nous ne devons pas, aujourd'hui, répéter Aristote. Ce serait très mauvais. Aristote nous aide à faire des gammes. Aristote nous aide à penser. C'est un tuteur. Il faut des maîtres vivants et des maîtres morts, comme dit Topfer. Mort. Alors, les maîtres que nous prenons, ce sont les plus grands autant que possible. Les maîtres morts, il faut prendre les plus grands. Même si c'est difficile, c'est pas commode de lire Aristote. Mais on n'a pas le droit de critiquer Aristote sans l'avoir lu. Ce serait un a priori. Sans l'avoir lu directement dans le texte. Hein. On n'a pas le droit de critiquer. On a le droit de dire c'est très difficile, j'ai rien compris à Aristote. Très très bien, j'ai rien compris à Aristote. Mais on n'a pas le droit de le critiquer sans l'avoir lu. Ce serait un a priori. Et donc ce serait indigne de votre intelligence. Votre intelligence n'est pas faite pour, premièrement, critiquer. Elle est faite pour rechercher la vérité. Dans notre monde d'aujourd'hui, après Heidegger est le dernier grand philosophe pour nous, je crois. Heidegger essaie de dépasser Kant, Hegel. Il veut revenir à la philosophie grecque. Et c'est très intéressant cette position de Heidegger. Heidegger dit textuellement, et Heidegger a quand même un certain niveau intellectuel, c'est quand même, je crois que pour nous, c'est le grand Platon de notre monde d'aujourd'hui. Parce que c'est une connaissance poétique, métaphysique, qui a quand même quelque chose de grand. Heidegger dit ceci, la philosophie avec Nietzsche, est tombé très bas. La philosophie spéculative, la métaphysique. Nietzsche, c'est l'enterrement de la métaphysique. C'est ce qu'il veut dire. Vous savez que Nietzsche dit que la métaphysique, c'est le pire des mensonges. C'est intéressant de voir ça. Non seulement c'est inutile, parce que certains disent que c'est inutile. Kant dira, c'est inutile, c'est impossible. Mais Kant n'a jamais dit que la métaphysique, c'était le pire des mensonges. C'est Nietzsche qui dit ça. La métaphysique, c'est le pire des mensonges. Très, très curieux, Nietzsche. Nietzsche est un grand bonhomme. Hein. C'est sûrement un grand bonhomme. C'est quelqu'un de très intelligent, dramatique. C'est le grand drame de la philosophie, Nietzsche. C'est pas l'aspect mystique, mais c'est le drame. C'est le drame de la philosophie. C'est pour ça, pour ceux qui sont un peu dramatiques dans leur intelligence, qui aiment le drame, il faut lire Nietzsche, c'est intéressant, parce que Nietzsche donne ça. Il ne faut pas le lire trop vite, hein, pas en première année de philosophie, parce que vous seriez nietzschien et vous n'arriverez pas à en sortir. Mais il faut savoir que ça existe, et que nous sommes tous un peu marqués par Nietzsche. Surtout si nous avons un peu le sens philosophique. Nietzsche marque très fort la pensée philosophique d'aujourd'hui. Eh bien, il y a dans Nietzsche quelque chose de très important, moi qui m'a beaucoup frappé. Nietzsche dit qu'il y a deux choses qui pour lui sont insupportables. La métaphysique de l'être et la compassion. Et ça, je trouve ça très intéressant. La métaphysique de l'être. La métaphysique de l'être, c'est quelque chose d'insupportable. Pourquoi ? Parce que la métaphysique de l'être, c'est le mensonge. c'est la spéculation sur le mensonge. Pourquoi c'est le mensonge? C'est de montrer que au-delà du sensible, il y a l'invisible. Si je dis qu'au-delà du visible, il y a l'invisible, je relativise le sensible. Et relativiser le sensible, c'est le pire des mensonges. Pour quelqu'un qui veut exalter la connaissance esthétique. La connaissance esthétique, pour Nietzsche, c'est justement ce qu'il y a de premier et d'absolu. L'homme est premièrement créateur, pour Nietzsche. Vous savez, cette affirmation de Nietzsche qui est si extraordinaire, quand il dit « Si Dieu existe, il est le créateur, or je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. » Ça, c'est très puissant, ça. C'est très puissant de dire ça, parce que ça nous montre, hein, ça nous fait comprendre l'a priori terrible qu'il y a. Mais il le dit textuellement comme ça, c'est extraordinaire. J'avais à Fribourg un étudiant nietzschéen, qui quand il est arrivé, il était nietzschéen, il était jurassien. Alors il avait l'immense avantage, c'est qu'il connaissait parfaitement l'allemand et le français. Et alors il a fait sa licence sur Nietzsche, il a fait son doctorat sur Nietzsche. Et ça, c'est quelqu'un qui vraiment connaissait parfaitement Nietzsche. Il était nietzschéen. Et puis petit à petit, il a dépassé Nietzsche. Il a compris. Et je ne lui demandais pas de faire un doctorat comme une profession de foi, mais de lui-même, il l'a fait. Première page de son doctorat, j'écris cette thèse pour tous ceux qui, comme moi, sont séduits par Nietzsche. Pour leur montrer que cette séduction conduit à rien. C'était beau de dire ça. Il avait 28 ans quand il faisait ça. Mais il avait vraiment travaillé profondément. Et il a découvert le dépassement de Nietzsche, il me dit, par le jugement d'existence. Pour moi, ça a été une confirmation très intéressante de voir que c'est vrai. On le verra en philosophie, ce que c'est que le jugement d'existence. Mais c'est intéressant de voir, vous voyez, comment Nietzsche veut à tout prix exalter la créativité. C'est la créativité aujourd'hui, vous savez bien, il suffit de faire une session sur la créativité pour qu'on ait un monde fou. Ben c'est très bien, c'est la tarte à la crème aujourd'hui, la créativité, dans tous les domaines, dans le domaine liturgique, comme dans le domaine pastoral, comme dans le domaine intellectuel. En fait, une session sur la créativité. Il faudrait que tous les jours, on dise une messe, une liturgie, selon une créativité nouvelle. Alors il faut tout changer, il faut tout le temps changer. Pendant tout l'office, on cherche les pages. N'est-ce pas ? C'est la créativité. Alors, la créativité, c'est toujours tout renouveler tout le temps. Qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait nécessité de la créativité, c'est bien évident. C'est sûr. Je voyais quelqu'un hier de la radio libre qui me disait, il faut prendre la créativité. J'ai rien dit. Hein. En dedans de moi-même, je dis, attention, n'allons pas trop loin. Parce que si vous mettez la créativité en premier lieu, c'est Nietzsche. Nietzsche, l'homme se définit par sa créativité. Alors, c'est très très bien, il y a une créativité, je suis tout à fait d'accord. Une créativité dans tous les domaines, même dans le domaine de la philosophie. C'est même là où la créativité est le plus forte. Mais il faut faire attention, la créativité n'est pas première. Alors, pour Nietzsche, la créativité est première. C'est ça qu'il veut sauver, la création, l'homme est un... Et c'est pour ça que la créativité va tellement loin qu'on n'a pas le droit de la relativité, de relativiser la créativité. Relativiser la créativité, c'est relativiser l'homme. Donc Dieu ne peut pas exister. Parce que si Dieu est créateur, je ne suis que second. Je cours par derrière. Et je ne peux pas courir par derrière, je suis relatif. Donc il faut supprimer Dieu. Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il serait créateur. Nietzsche sait très bien, parce que le premier Nietzsche, hein, le Nietzsche de 18 ans est croyant. Chez Nietzsche, il y a un mystique, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelqu'un qui avait un soif d'absolu. Nietzsche, à 18 ans, écrivait des psaumes très étonnants, merveilleux. Il sentait le drame en lui. Il sentait cette espèce de division. Alors, certains disent que jusqu'au bout de sa vie, Nietzsche est resté un mystique. C'est possible. Mais dans ses écrits, évidemment, on sent très bien le drame de cet homme qui essaie de s'en tirer par la créativité. Si je mets la créativité au sens absolu de tout, je dis la métaphysique c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que je suis obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose avant la créativité. Il y a ce qui est. Le poète, l'artiste, ne crée pas une réalité existante. Il ne peut créer que des formes. Alors, une fois que j'ai compris que l'artiste ne peut créer que des formes, mais qu'il crée à partir d'une matière préexistante, on est obligé de reconnaître que la créativité n'est pas l'absolu de l'homme. Il y a quelque chose de premier, d'antérieur à la créativité. Il y a notre univers. Avant d'être un poète, l'univers existait. Avant votre création, l'univers existait. Et puis il y avait avant vous quand même vos parents. Alors soyez respectueux. Reconnaissez que vos parents existaient avant vous. Et qu'avant vous, il existait un univers. Et donc ce n'est pas vous qui avez créé vos parents. Ce n'est pas vous qui avez créé l'univers. Vous ajoutez quelque chose à cet univers. Vous voyez, la créativité n'est pas première. Si je fais de la créativité quelque chose de premier, je dis la métaphysique est un mensonge. Ça, c'est très important de comprendre ça. La métaphysique est un mensonge parce que je relativise le sensible en disant qu'il y a au-delà du sensible, au-delà de la connaissance esthétique, il y a une connaissance spéculative. Il y a une connaissance de la réalité prise en elle-même. Et Nietzsche dit, l'autre chose insupportable, c'est la compassion. C'est très étonnant de voir ça, vous voyez. Parce que Nietzsche est né dans un milieu protestant, et en disant que les deux choses les plus insupportables, c'est la métaphysique et la compassion, Nietzsche montre que le catholicisme est insupportable. Parce que les deux choses que le catholicisme maintient, c'est la métaphysique et la compassion. Ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de la femme, c'est la compassion. À cause du mystère de la croix. Le mystère de la croix, c'est le mystère de Dieu fait homme. Et c'est la croix qui est le sommet de toute la vie du Christ. Et le sommet, donc, de l'âme chrétienne, c'est la compassion. La compassion est dans l'ordre affectif. C'est très important de saisir ça, vous savez, parce que ça nous fait saisir les deux pointes les plus vulnérables qui sont en nous. La pointe intellectuelle, qui est le point de vue de l'intelligence, la métaphysique, et la pointe affective, qui est la compassion. C'est intolérable d'avoir un cœur qui compatit, parce qu'on souffre. C'est intolérable. On compatit. Pour compatir, il faut aimer. Et dans la mesure où j'aime, je deviens vulnérable. Et dans la mesure où j'aime, je suis capable de compatir. La compassion, c'est le mystère de Marie. C'est le mystère de la femme. C'est intolérable pour un intellectuel d'être celui qui compatit. C'est très important. Vous savez, Nietzsche, là, pour moi, me donne une très très grande lumière. C'est une lumière qui est terrible, parce que c'est pas du tout pour accepter cela, mais c'est comme si, de fait, Nietzsche, poussé par une force plus grande que lui, montrait les deux choses les plus intolérables qui soient, la métaphysique de l'être, la compassion. Les deux sommets qui existent dans le cœur de l'homme. Les deux sommets de l'esprit humain. Métaphysique, compassion. Il faut maintenir les deux. On est vrai que si on maintient les deux. Alors, réaction en face de Nietzsche, ou plus exactement, position de Heidegger en face de Nietzsche. Heidegger dit, avec Nietzsche, la métaphysique est descendue le plus bas qu'elle pouvait descendre. Elle ne pouvait pas descendre plus bas. Et plus elle descend bas, plus elle doit remonter et redécouvrir. Et c'est vrai ça. Vous voyez, c'est le coup de pied qu'on donne quand on touche le sol, hein, et qu'on risque d'être naufragé, alors on donne un coup de pied pour revenir. Et il faut comprendre la réaction de Heidegger face à Nietzsche, parce que autrement on ne comprend pas Heidegger. Il faut comprendre Heidegger face à Nietzsche, qui dit « Ah non, il faut penser l'être. Et penser l'être, c'est ce qu'il y a de plus noble. Heidegger a oublié la compassion. Si Heidegger avait eu dit l'être et la compassion, il serait resté catholique. Heidegger, il ne faut pas l'oublier, hein, Heidegger a été tenté par Luther. Il a été tenté par cela. Et il est mort catholique. Hein. Il est mort dans sa petite église. Il a demandé d'être enterré dans l'église catholique. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il était catholique de formation. Mais il a été très tenté à un moment donné. Très tenté par le point de vue de Luther. On comprend du reste. Hein, de dire penser l'être, c'est au fond avouer en même temps que l'intelligence humaine ne peut pas analyser l'être. Donc elle est fixée sur l'être. Et elle est en attente de Dieu. Mais tout le mystère de la compassion, il l'a laissé tomber. Ce serait très intéressant, vous voyez, face à Nietzsche, de bien comprendre Heidegger. Parce que c'est intéressant de saisir cela. Heidegger, pour nous, est un peu comme quelqu'un qui relève le défi de Nietzsche, mais qui ne le relève pas totalement. Et nous devons relever le défi de Nietzsche totalement. Et pour le relever complètement, il faut reprendre une philosophie de l'être et une éthique de la compassion. Et une éthique de la compassion, c'est une éthique de l'amour. Donc les deux choses que nous devons faire en face de Nietzsche, c'est comprendre d'une part que l'intelligence est faite profondément pour penser l'être, découvrir ce que c'est que l'être, et que le cœur de l'homme est fait profondément pour aimer, en acceptant de compatir, en acceptant la souffrance. On ne peut pas aimer vraiment sans souffrir, pas possible autrement. C'est la condition de l'homme. Il doit accepter que plus il aime, plus il souffre. Mais en même temps, plus il aime et plus il souffre, plus l'intelligence doit en même temps découvrir son autonomie profonde par le point de vue de la découverte métaphysique de ce qui est. Les deux choses vont ensemble, vous voyez. C'est ça qui est très très beau, du reste. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est qu'une métaphysique de l'être réclame une philosophie de l'amour. Et que s'il n'y avait qu'une métaphysique de l'être sans une philosophie de l'amour, on retomberait dans les idéologies. Il faut une métaphysique de l'être poussée le plus loin possible. C'est ce que nous essaierons de faire ensemble. Nous essayons de relever le défi de Nietzsche. Après Heidegger. Et nous essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'être qui peut permettre à l'intelligence humaine d'aller jusqu'au bout de son appétit naturel. Nous avons un appétit de vérité. Si nous n'atteignons pas l'être, nous n'arriverons pas à comprendre cet appétit de vérité. Mais cet appétit de vérité n'est pas ce qui est ultime. Ce qui est ultime, c'est la contemplation. Et la contemplation chrétienne, elle a un mode de compassion. Alors vous allez me dire, ça c'est chrétien. Oui, c'est chrétien. Je suis tout à fait d'accord. Parce que dès que je suis dans l'éthique, je vois que l'éthique ne peut être parfaite que si elle est chrétienne. Tandis que la métaphysique, elle est parfaite en elle-même. Il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Parce qu'il n'y a pas un être chrétien. Vous voyez bien. Hein, c'est la grâce présuppose la nature. Donc l'être, il est créé tout simplement. Tandis que l'amour, lui, ne peut être parfait que s'il est chrétien. Et donc, il ne peut y avoir une éthique parfaite que si elle est chrétienne. Et l'éthique chrétienne, elle aboutit à la compassion. Vous voyez, c'est ça, dans cette situation-là, dans laquelle nous nous trouvons. Hein, relever le défi de Nietzsche. C'est intéressant, du reste. C'est pas Marx. Marx, au point de vue intellectuel, c'est très pauvre. Hein, c'est très pauvre. C'est pas Hegel. Non, c'est Nietzsche. C'est intéressant de voir ceux qui sont les plus proches de nous. Parce que Nietzsche est intelligent, et puis il est un artiste. Et puis il a saisi le drame de l'homme. Voyez, si vous regardez Camus, vous voyez Camus, c'est aussi le drame de l'homme. Mais d'une façon différente. Nietzsche va plus loin que Camus. Mais on pourrait prendre Camus aussi, parce que Camus a saisi très très fort le drame de l'homme. Alors lui, Camus, ne va pas aussi loin. Il ne va pas aussi loin, Camus. Camus ne dit pas que la métaphysique, c'est un mensonge. Il l'ignore. Tandis que Nietzsche ne l'ignore pas. Il dit que la métaphysique est un mensonge. Camus ne dit pas que la compassion, non. Camus, il essaie de saisir une solution par l'esthétique. Plus exactement, par le beau. Il veut donner une solution par le beau. J'aime mieux la position nietzschéenne, parce qu'elle est plus absolue. Alors, c'est la créativité. Alors, la fois prochaine, vous voyez, nous allons essayer d'entrer comment répondre à Nietzsche. Comment dépasser Heidegger. C'est ça notre désir, dépasser Heidegger et répondre à Nietzsche. Parce qu'il s'agit de comprendre que c'est le problème actuel, ça.